bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre dans ces émissions spéciales municipales à Blois qui se tiendra le 15 et le 22 mars. Cette émission, donc, dans ce studio est présent trois structures pour interroger le maire sortant Marc Gricouret, candidat à sa succession. Bonjour à toutes les trois qui êtes présentes ici pour converser avec Marc Gricourt. On commence les présentations, Virginie.
Bonjour Thomas, Virginie Joly, directrice de l'ALEP, association de loisirs et d'éducation populaire installée sur les quartiers ouest.
Nos voisins.
Bonjour, Laure Amans, membre du CA de la Maison des Provinces.
Bonjour, Cécile Singerie, directrice de l'association Biosolidaire. Et son chantier d'insertion Jardin de Cocagne, qui accompagne donc les personnes éloignées de l'emploi vers un retour au monde du travail.
Donc deux maisons de quartier et une association de réinsertion économique pour donc ces émissions qui sont parfois en direct, parfois enregistrées pour des raisons de planning entre les structures invitées et les candidats au poste de maire. Donc, mais elles seront évidemment réalisées dans les mêmes conditions, à savoir dans les conditions du direct. Et puis une présentation du candidat.
Eh bien bonjour aux auditrices et auditeurs de Studio ZEV, donc Marc Gricourt, maire de Blois depuis 2008 et candidat donc à la tête de la liste d'Union de la Gauche, Prenons Soin de l'Avenir.
Merci à toutes et à tous d'être là. Donc on commence tout de suite avec une introduction du candidat sur donc les thèmes sur lesquels nous avons décidé de cadrer, même si évidemment ça va déborder, les sujets étant suffisamment transversaux pour déborder les simples trois grands mots-clés qu'on a définis dans le cadre de la préparation de ces émissions, donc à savoir la culture, le social et le soutien au monde associatif. On a bien compris qu'au travers de ces trois mots-clés se dessinent évidemment les idées, les questions de la citoyenneté, du vivre ensemble sur le territoire de la ville. C'est à vous, Marc.
Vous avez presque fait pour moi la réponse.
Désolé.
La vie associative, c'est évidemment une place importante dans la ville de Blois depuis toujours et que l'on a essayé de conforter au fil des années. Elle porte des missions indispensables à la vie quotidienne des Blaisoises et des Blaisois dans tous les domaines, de l'accès à la culture, au sport, aux loisirs, la défense des droits pour l'égalité, la lutte contre la discrimination, pour les questions environnementales. Bref, on voit bien que ça couvre tous les champs de l'action publique. Et donc, le social, c'est évidemment tout ce que l'on peut porter pour faire de la cité un lieu de solidarité entre les générations. Et puis, c'est porté aussi par les associations qui, dans ce domaine, jouent un rôle important. La culture, c'est un point spécifique. Blois est une ville culturelle. Et là aussi, on aura capacité à démontrer les impulsions fortes que nous avons données pour la diffusion culturelle, l'expression culturelle et l'accès à la culture pour tous.
J'en profite, la présence de Marc Gricourt par rapport aux autres candidats est spécifique, c'est le maire sortant, ce que je vous disais en préparation. On va essayer, monsieur le maire, si c'est possible, donc de parler projet. Alors ça ne vous évitera pas évidemment de défendre ce que vous avez construit depuis les mandatures précédentes, mais l'idée étant de projeter plutôt que de défendre un bilan. C'est pas dans ce cadre-là, et ça permet de donner une équitabilité entre les différents candidats qui, eux, évidemment, On parlait projet également. Voilà pour cet élément de cadrage. Eh bien, on commence. Hein. Qui lance les hostilités, oserais-je dire ?
Allons-y.
Vas-y, Virginie.
Non, pas d'hostilité.
Non, c'est pas le but de ces manœuvres. On a choisi d'avoir du temps long justement pour développer le fond et pouvoir expliquer tous les projets, toutes les propositions des candidats.
Alors Marc, juste, on a préparé un peu avec mes collègues quelques thèmes. Et le premier thème auquel tu ne pourras pas nécessairement répondre à tout, mais c'est une réflexion, en tout cas, sur l'univers associatif. Donc nous, ce qui nous est apparu tout de suite, c'est la précarité du monde associatif. Et ça, depuis quelques années, précarité financière, des modèles économiques. On se rend compte qu'en discutant, même si on n'est pas du tout sur les mêmes services, sur les mêmes offres, etc., on a des modèles économiques qui se ressemblent, hein, c'est-à-dire fonds publics, fonds privés, dons, engagement bénévole, citoyen, etc. Et ce modèle-là est remis en cause, ça tu le sais. Et du coup, on se pose la question sur cette précarité qui entraîne la précarité salariale, la précarité des publics, etc. Comment on peut imaginer des modèles sur un territoire comme une ville, ensemble, pour essayer de dépasser... Alors, on dépassera jamais, mais voilà, puisqu'on est dans un système global. Mais comment travailler sur ce problème de précarité des modèles économiques, précarité salariale, en sachant que bien évidemment ça appartient aux employeurs, mais c'est un questionnement qui est propre à toutes les associations, quel que soit le domaine, santé, éducation, etc., etc. Voilà, donc on aimerait pouvoir discuter en tout cas sur ces... sur ces pistes-là.
Oui, oui, c'est vraiment la question de la pérennité de toutes nos associations qui sont fondées en fait sur les mêmes bases économiques, les mêmes bases qui, sur une base de bénévolat, sur une participation citoyenne qui se réduit aussi comme peau de chagrin de plus en plus. Voilà. C'est ça.
Je ne suis pas sûr que vous aurez une heure pour répondre à l'ensemble de cette grande question, mais allez-y, Marie-Coin.
Ben merci, une question fort intéressante, surtout dans un contexte où le monde associatif est depuis trop d'années, et surtout ces 10 dernières années, malmené par l'État et les gouvernements successifs. Il y a eu la disparition des emplois aidés, il y a eu des baisses de subventions dans tous les domaines de l'action associative. Et puis, nous, les collectivités territoriales, des impacts qui sont aussi ceux de l'État sur nos dotations, sur nos ressources, qui peuvent impacter l'accompagnement pour les collectivités territoriales du monde associatif. Alors, de notre côté, à la ville de Blois, je parle un peu de mon bilan quand même, hein, nous n'avons jamais baissé l'enveloppe globale de subventions aux associations. Elle est même régulièrement en augmentation. Et d'ailleurs, ces trois dernières années, c'est à peu près 380 000 euros de subventions en plus au global. Ça ne veut pas dire que toutes les associations en bénéficient, mais ça nous permet d'ajuster ici un peu plus, la stabilité, pour essayer de garantir au mieux l'action des associations. Être en stabilité de subvention, c'est déjà bien dans le contexte d'aujourd'hui. Il suffit de regarder à l'échelle nationale ce qu'est la réalité de l'engagement ou du désengagement de beaucoup de collectivités, que ce soit les communes, les départements, dans certains secteurs français des régions. C'est déjà bien, mais c'est au final, sur la durée, une perte pour les associations, notamment celles qui ont des coûts salariaux, des charges qui augmentent. Et donc, c'est la situation que vous évoquez, hein, d'une fragilité de la vie associative en France. Et malheureusement, Blois n'y échappe pas. Donc, il y a la question des ressources financières. De ce point de vue, notre engagement, il est politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que, considérant que la vie associative joue un rôle majeur dans le quotidien des Blaisoises et des Blaisois dans tous les secteurs que j'ai rappelés dans mes propos introductifs, c'est un choix politique de tout faire pour maintenir le niveau de subvention aux associations. Avec aussi tout ce que l'on peut porter indirectement, c'est-à-dire la mise à disposition de locaux associatifs. Hein, c'est quand même 15 000 mètres carrés de locaux associatifs à Blois qui sont mis à disposition, donc pas gratuitement, mais pratiquement. Hein, on fait payer qu'un coût de charge. Là aussi, il suffit d'aller regarder partout en France, c'est public, et dans notre région, ce qu'est la réalité dans les autres communes qui facturent des loyers, qui ont beaucoup moins de surface mise à disposition. Et puis, c'est tout ce qu'il y a aussi indirectement, l'accompagnement logistique, la mise à disposition de salles pour des assemblées générales, pour des événementiels, l'espace public, etc., etc., avec l'accompagnement des agents de la collectivité municipale. On a ce que vous évoquiez, donc pour les associations, les ressources qui peuvent provenir pour certaines encore heureusement de l'État, des collectivités territoriales, il y a les adhésions, hein, des usagères et usagers des missions que vous portez. Et puis, il y a aussi, pour certaines associations, l'intervention du secteur privé, des entreprises, le mécénat. Donc, comment garantir tout ça dans l'avenir ? Je ne vous cache pas que je suis préoccupé. Alors, je suis préoccupé pas en tant que maire, en tant que citoyen attaché à la vie associative, puisque ça a été pour moi un engagement sur plus de 20 ans avant mon engagement politique. Et donc, c'est une préoccupation. Donc, il nous faut tous ensemble inventer, savoir s'adapter. Donc, ça peut passer par des mutualisations Donc déjà, pour maîtriser les coûts de la ville sur les locaux mis à disposition, mutualiser, quand c'est possible, des locaux, pour réduire les surfaces mises à disposition et donc les charges pour la commune, ce qui nous permet d'avoir des marges pour garantir les subventions directes. C'est aussi travailler peut-être à des fusions. Alors ça s'est fait dans le passé, hein. Dans mon premier mandat, nous avions réussi à convaincre les deux associations de judo de se réunir pour ne faire qu'une seule association. Donc il y a dans certains champs de l'action associative des possibilités de fusion, ce qui permet de mutualiser les moyens, de partager aussi des bénévoles. Il y a le sujet que vous évoquiez de l'engagement du bénévolat, donc on sait combien c'est plus difficile. Et là aussi, on peut inventer des choses. On l'a partagé il y a 3 semaines avec de nombreuses associations que j'avais invitées. Et de pouvoir, par exemple, se réunir plus souvent pour partager aussi des bénévoles sur des temps dans l'événementiel, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'inventer. Et les maisons de quartier, de ce point de vue, on a la chance d'avoir un maillage territorial des maisons de quartier. Les maisons de quartier pourraient être le lieu où les associations peuvent partager toutes les problématiques qu'ils rencontrent et essayer de mutualiser aussi les choses. Alors, on a la chance d'être dans une région qui a réagi il y a 20 ans maintenant à l'occasion des premiers désengagements de l'État pour accompagner le portage des coûts salariaux du monde associatif avec le dispositif unique en France CAPASSO, qui est un dispositif qui vient en aide au monde associatif. Alors évidemment, c'est un dispositif que je connais bien en tant que premier vice-président de la région. Donc ça, c'est un engagement maintenu de la région. Mais bon, voilà, il y a des échéances électorales qui pourraient remettre en question aussi ce dispositif dans une période de contraintes budgétaires auxquelles les régions n'échappent pas. Donc voilà, je crois que c'est travailler ensemble, partager plus qu'hier, essayer d'inventer, d'innover pour faire en sorte que nous préservions l'essentiel. Et puis, moi, je suis toujours optimiste que nous puissions continuer aussi à développer des actions portées par le monde associatif dans certains domaines.
Moi, j'interviens ici aujourd'hui plutôt pour porter les structures d'insertion par l'activité économique. On appartient aussi à ce monde associatif. Quelle place on peut y trouver? Quel engagement on peut espérer peut-être pour maintenir aussi un modèle économique très, très fragilisé? Alors, je rejoins mes collègues sur l'engagement, la mobilisation de l'engagement citoyen aussi. Les bénévoles sont toujours difficiles aussi à mobiliser. C'est pas une mission très simple que de les faire venir auprès de nous pour nous aider. Mais ma question, c'était plutôt ça. Quel engagement sur la partie insertion? On accompagne des publics vulnérables. On a une mission sociale qui rejoint aussi beaucoup celle de mes collègues, même si on est plus sur de la culture ou autre chose. Quelle place vous y faites? Quelle place vous faites au travail qu'on peut faire?
Alors, les structures d'insertion par activité économique, elles sont nées il y a maintenant à peu près 25 ans. Elles sont essentielles dans l'accompagnement de certains publics, notamment très éloignés de l'emploi, pour leur réinsertion sociale. Hein. Mmh. Et du coup, l'insertion ensuite à nouveau professionnelle ou dans une reprise de formation. Donc ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé lorsque j'étais entre 2004 et 2014 élu départemental. Et c'est vrai qu'on est là aussi victime des désengagements de l'État auprès des collectivités, notamment les conseils départementaux, qui ont aujourd'hui plus qu'hier des contraintes budgétaires réelles qui pourraient porter atteinte à certaines actions qui leur incombent. L'insertion, ça incombe au département. Ensuite, ce sont des choix politiques. Donc là aussi, aujourd'hui, dans ce département, on a plutôt un maintien de l'engagement du conseil départemental et tant mieux, mais dans une période où le chômage augmentera à nouveau, avec des exclus des prestations, donc plus de bénéficiaires du RSA, etc., il faut évidemment maintenir cet effort qui est indispensable pour garantir la cohésion sociale de notre société et ici à Blois. Alors, du coup, ça ne dépend pas de nous, Ville de Blois, ça n'est pas dans notre champ de compétences. Indirectement, on accompagne des structures, que ce soit la ville ou l'agglomération, telles que celles que, dont vous avez la direction, qui par les subventions, des aides à l'investissement, etc., mais pas directement. Et donc, nous, la ville, quel est notre rôle d'accompagnement ou de soutien? C'est ce que j'avais souhaité mettre en place très tôt, c'est-à-dire des partenariats, des marchés publics pour faire travailler ces structures, ces personnes. Donc c'est concret depuis maintenant 17 ou 18 ans avec des structures comme la Régie de quartier, avec l'association Éclair. Et ce sont des personnes qui sont encadrées par nos fonctionnaires territoriaux, avec du coup une capacité aussi pour nous d'en recruter certaines et certains, ce qui s'est fait au fil du temps. Donc voilà, c'est plutôt un rôle de soutien à travers des marchés publics. Et demain, on peut imaginer un élargissement de ces missions. Alors sur les jardins de Cocagne, par exemple, ben, c'est la volonté que j'ai eue d'un retour en gestion publique de la restauration scolaire. Et il y a évidemment capacité à soutenir et accompagner nos productrices et producteurs locaux, mais aussi, des structures qui sont, comme vous, sur la production maraîchère et pour lesquelles on doit avoir aussi un soutien, un partenariat.
Si je peux me permettre de revenir sur l'engagement citoyen. Comme disait Cécile et puis Laure, on voit bien qu'il y a pas un désengagement, je ne peux pas te dire ça, parce que la vie associative, et notamment sur Blois, est très vivace. Malgré tout, on a beaucoup de mal à mobiliser. Et c'est vrai que comment on pourrait... comment la ville pourrait nous aider, mais de manière globale avec le monde associatif, l'ensemble du monde associatif, et ça tu l'as bien dit, c'est-à-dire montrer l'importance du monde associatif, c'est-à-dire qu'on répond à l'ensemble de services d'intérêt général quand même. Enfin voilà, donc aujourd'hui on va faire du sport, c'est une association, on va faire je ne sais quoi, enfin on va faire du dessin, du macramé,
de la distribution alimentaire.
La distribution alimentaire, c'est associatif. Absolument. L'État s'est appuyé depuis les années 70 sur le monde associatif pour répondre à l'intérêt général. Les collectivités s'appuient sur le monde associatif et le grand public n'a aucune visibilité sur ce monde associatif. Et je me dis, mais voilà, comment on peut travailler ensemble sur cette communication? Alors, il y a un forum des associations, mais ce n'est pas... De mon point de vue, hein, ce n'est pas suffisant parce qu'on voit bien, alors quand on est ensemble, on est très content de se voir entre associations et hop, on discute. Mais le grand public n'a absolument pas conscience que l'intérêt général est aussi en partie porté, je dis en partie parce que bien évidemment c'est porté par l'État et les collectivités, mais en partie porté par le monde associatif. Et comment avoir une dimension pédagogique auprès des Blaisois et des Blaisoises pour dire, mais à un moment donné, si vous voulez ce service-là, peut-être un petit engagement. Alors, il y a plusieurs formes de bénévolat. Hein, et c'est vrai qu'on a le bénévolat gestionnaire dans nos structures où il y a des emplois. Mais il y a aussi du bénévolat one-shot.
Sur de l'événementiel ponctuel. Exactement.
Et donc, du coup, aussi avec tous ces jeunes gens, aujourd'hui, il y a les services civiques, il y a des dispositifs qui existent. Mais dans les lycées, dans les collèges. Alors, je sais que les lycées et les collèges aussi essayent de se mobiliser, qu'il y a des choses qui se passent. Mais on n'a pas de lisibilité. Les gens n'ont pas de lisibilité. Nous non plus entre nous, alors c'est compliqué hein, et je sais bien que la municipalité peut pas non plus répondre à tout. Il y a un service vie associative et d'ailleurs je me permets de les remercier là parce qu'il y a un gros boulot qui se fait avec eux. Mais voilà, comment on peut essayer de rendre lisible tout ça au grand public? Et qui est, alors on est bien évidemment dans un système où on est dans une individualité, on est dans... Oui. Voilà, et c'est compliqué. Hein,
Au sein de nos associations, on a à prendre en charge le vivre ensemble, rendre tout cela possible. Et on se retrouve à fonctionner dans un système un peu de vase clos, avec toujours une même typologie de bénévoles, de personnes qui sont prêtes à s'engager, à offrir de leur temps, et de plus en plus avec un schéma de clientélisme. C'est-à-dire que, effectivement, en tant qu'association, on vend des services, du loisir, de la culture, de l'alimentaire, du soutien à l'économie locale, mais les gens se placent de plus en plus dans une situation de client, les associations elles-mêmes se retrouvent face à de la concurrence privée, voire même on se concurrence entre associations, ce qui nous pousse aussi à des politiques tarifaires qui sont de plus en plus difficiles à justifier, à assumer. Et donc tout cet ensemble fait que les gens ne s'investissent plus parce qu'ils payent et considèrent qu'on leur doit en fait le service et qu'ils n'ont plus à s'engager pour améliorer le bien-être et les possibilités culturelles et de loisirs en fait et de prise en charge de leur famille et de leurs aînés, de tout le monde.
Vous avez une minute pour répondre à peu près aux 100 questions et remarques
que
vous avez
formulées. En fait, c'est de dire, est-ce qu'il est possible de trouver un système qui pourrait fédérer l'ensemble du monde associatif, de trouver des moyens transverses. Et parce que typiquement, Cécile, au Jardin de Cocagne, elle gère de la réinsertion, mais il y a du social. Or, nous ne sommes pas pluridisciplinaires, nous sommes cloisonnés, chacun dans nos spécificités. Et voilà. Enfin, voilà.
Alors ça rejoint, que c'est intéressant, parce que ça rejoint ce que j'évoquais et une suggestion que j'ai faite donc, à cette réunion il y a 3 semaines au monde associatif. Certaines ont des compétences dans l'accompagnement social, etc., qui pourraient, avec des bénévoles, qui pourraient du coup consacrer, 2 heures par semaine, 5 heures par mois, auprès d'une autre association sur l'accompagnement de ces questions sociales. Une autre association aura des bénévoles compétents en matière de gestion publique et pourrait venir porter main forte. Pareil, si c'est 1 heure par semaine, à une autre association. C'est là où il faut qu'on crée un réseau. Alors la ville en serait à l'initiative, en s'appuyant, comme je disais, par exemple, sur les maisons de quartier, parce qu'elles sont identifiées, mais accompagnées par notre direction de la vie associative, pour obliger et favoriser ces transversalités. Sur la question de l'engagement bénévole, cette réalité qu'on partage, d'un déficit au fil des années, malheureusement. Alors, si on repousse aussi éternellement l'âge de la retraite, ça va diminuer la disponibilité de celles et ceux qui s'engagent beaucoup après une carrière professionnelle parce qu'ils ont du temps. Donc, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Et le bénévolat, si on le facture, ça coûterait très cher, hein. Donc il faut le favoriser. Mais on peut aussi inventer des choses. Je recevais une grande association blésoise avant-hier qui est confrontée à cette problématique d'insuffisance de bénévoles, pour ne pas la nommer les Restos du Cœur. Et je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on essaie, nous, dans notre rôle d'initiative, de créer des rencontres. Donc on a le Forum de l'engagement. C'est ce qui a fait suite au Forum des associations. On a volontairement, avec Claire Louis, mon adjointe, voulu l'intituler de l'engagement pour faire venir des personnes et les sensibiliser à l'engagement dans le monde associatif. Ça marche. Alors, c'est peut-être epsilon, mais chaque année, on rencontre des personnes qui, notamment arrivent à Blois, ont envie de s'engager, mais ne savent pas auprès de quelle association. Donc là, elles ont tout le panel de la vie associative qui leur permet d'apprécier là où elles pourraient se sentir bien et s'engager. Je dis toujours, un engagement, on sait qu'il ne faut pas qu'il soit trop contraignant. Donc plus on aura de bénévoles, plus le temps qu'ils auront à consacrer possiblement pourra être bas et donc conserver du temps pour leurs loisirs, pour leur famille, pour leurs amis, etc. Donc il faut stimuler l'engagement et ça pourrait être aussi, moi j'en suis convaincu, auprès des jeunes et notamment de nos étudiants. On a la chance d'être dans une ville étudiante, 4000 étudiants. Je suis convaincu que selon les secteurs d'enseignement, les filières d'enseignement supérieur, par exemple des jeunes de l'IFSI, même si leur emploi du temps est chargé, consacrer justement par exemple aux associations d'aide alimentaire 1 heure par semaine ou 2 heures, c'est aussi formateur et ça soulagerait les associations. Et puis d'autres associations étudiantes qui pourraient stimuler aussi l'engagement de certaines et certains jeunes, on le sait, très sensibles aux questions de solidarité, très sensibles aux questions environnementales. Voilà, mais je crois que tout ça, il faut l'impulser, créer des contacts. Et donc, la proposition que j'ai faite, et ça, c'est demain, donc, c'est à notre prochain forum, si nous sommes réélus, forum d'accueil des nouveaux étudiants à la Lograin, de faire venir des associations qui ont besoin de bénévoles pour stimuler l'envie des jeunes aussi de s'engager, même si, encore une fois, c'est une heure, deux heures, trois heures par semaine. Certaines et certains peuvent le faire, d'autres ne le peuvent pas pour des raisons financières. Sont des jeunes qui consacrent quelques heures par semaine à des jobs précaires pour pouvoir simplement financer leur période de formation. Mais voilà, ce sont des pistes qu'il faut essayer de tester.
Oui, en fait, pour le bénévolat, en fait, c'est vrai qu'il y a tout un public, je pense, qu'on ne touche pas. C'est-à-dire que devenir bénévole, c'est faire la démarche. Connaître déjà le système, savoir avoir la volonté, savoir à qui s'adresser. Or, il y a tout un public de la population immigrée ou étrangère qui ne maîtrise pas forcément très bien la langue, ni nos systèmes, ni nos institutions, qui aurait potentiellement du temps, qui aurait cette nécessité de rencontrer l'autre, de découvrir, et qu'on ne touche jamais. Et là, c'est vraiment cette question-là, en fait. Comment attirer tous les publics au bénévolat sans que les gens aient cette démarche de volontaire et que ces personnes qui ne maîtrisent pas les codes de notre système puissent aussi arriver jusqu'au monde associatif qui est là pour eux, en fait.
Voilà. Parce que je réfléchis en échangeant avec vous. Et donc c'est aller vers. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne franchiront jamais la porte
cette démarche
de
volontaire,
la Maison Bégon, du centre Rosa Parks, des jardins de Cocagne. Donc c'est sur des temps où on peut rencontrer des publics diversifiés, y compris pourquoi pas sur les marchés, d'aller vers.
Exactement.
Et de leur dire, est-ce que vous connaissez notre association? Est-ce que vous n'auriez pas quelques heures à consacrer? Ça vous crée du lien social. Parce que c'est aussi accompagner le bien vieillir dans notre société et à Blois. Société est la réalité démographique, est ce qu'elle est, avec un vieillissement de la population. Et bien vieillir, c'est continuer à garder une activité physique, une activité intellectuelle, du lien social. Il y a beaucoup trop de personnes qui malheureusement sont isolées, donc il faut les ramener vers le collectif, des actions collectives. Et je suis convaincu que ça aussi, quelques heures d'engagement par semaine pour des personnes notamment retraitées, originaires de différents pays, c'est aussi un élément qui leur permettra de mieux vieillir.
Si je peux me permettre de rebondir par rapport à ce que tu dis, je suis convaincue et je pense que ça a été fait, enfin en tout cas en grande partie. Ceci dit, les politiques publiques nationales scindent les publics, les réponses au public, ce qui en découle sur les territoires, les collectivités, etc. Et du coup, les municipalités comme le monde associatif scindent aussi en fonction de son public, puisque les financements sont en fonction des publics. Et du coup, on se retrouve, comme on l'a dit tout à l'heure, cloisonné. Et comment une ville, la taille de Blois, peut essayer de dépasser ce cloisonnement? C'est très complexe, c'est très compliqué. Mais essayer de voir, de constater ce qui est cloisonné, et parce que c'est ça, c'est essayer d'observer ce qui est cloisonné, et ça nécessite des retours sur nous-mêmes et sur nos fonctionnements propres, fonctionnement associatif, fonctionnement des services publics, pour essayer de dépasser ce cloisonnement. Enfin, on le voit très très bien, et moi la première, en travaillant à l'espace Quinière Rosa Parks, on est deux structures totalement complémentaires, et pourtant on est scindés, et pourtant on n'arrive pas toujours à croiser et à permettre la rencontre des publics entre eux.
Voilà. Ça rejoint la notion de transversalité qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, c'est pareil. Alors, remobiliser, redonner du sens citoyen, c'est une chose. Aller vers, mais après, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour créer du lien aussi, la transversalité, la mutualisation de ces bénévoles qu'on peut peut-être toucher, de nouveaux bénévoles? Comment on mutualise ça entre nous aussi pour se soutenir et partager les missions qu'on peut avoir? Parce que chaque bénévole va aussi apporter son lot de compétences spécifiques, son vécu, son expertise, parfois professionnelle et tout. Et comment on peut partager ça? Qui peut porter? Quel vivier on peut créer?
Alors c'est ce que je disais, j'ai peut-être pas été suffisamment clair. Moi, je l'imaginerais donc au sein des maisons de quartier, à un rythme régulier, une fois par mois, une information sur rencontre avec entre quelques associations qui le souhaitent. Et à l'occasion de cet échange entre bénévoles et responsables des associations, de partager vos difficultés, de dire, ben nous, on organise un événementiel, là, au mois de juin, on appréhende parce qu'on n'a pas suffisamment de bénévoles. Eh bien, l'association sportive va dire, ben nous, ça tombe bien, ce week-end-là, il n'y a pas d'événement sportif, on va solliciter nos bénévoles pour venir vous accompagner à l'ALEP pour porter cet événement. Donc, nous, on est là en soutien. Donc, nos agents de la vie associative pourraient assister à ces rencontres pour faciliter des questions logistiques, d'organisation, etc. Mais après, c'est au monde associatif de s'organiser pour, entre ces bénévoles pour inventer ces nouveaux partenariats et ces échanges de bénévoles.
J'irai, je ne sais pas si c'est aller plus loin, mais tout à l'heure, Laure parlait des gens issus de l'immigration. C'est un public qui est cloisonné. Les gens en insertion, c'est un public qui est cloisonné. Les gens à la rue, et à l'ALEP, on connaît un petit peu, puisqu'on a un programme qui est à destination des gens à la rue, qui s'appelle Le Carillon. Bref, on a tous ces publics qui sont scindés. Je veux dire, une municipalité, effectivement, elle peut faire ce que tu proposes, et ça, c'est très bien. Là, c'est plutôt entre nous. Comment on peut travailler sur notre regard, notre propre regard par rapport à un public, comment on travaille avec les Blaisois et les Blaisoises sur leur regard par rapport à ce public-là. Enfin, aujourd'hui, on a les quartiers politiques de la ville, donc ils sont séparés de la ville. Enfin, j'exagère, hein, et ça, ce n'est absolument pas de la responsabilité d'une municipalité, mais bien d'un système dans lequel on est. C'est encore une fois comment, sur un territoire, on arrive à faire commun.
Communauté.
Pour faire ça, il faut vraiment travailler sur notre propre regard, à nous-mêmes. Et pouvoir travailler sur le regard, enfin que chacun travaille sur son regard. Alors tout le monde n'a pas la possibilité, parce que quand on est dans des situations de très grande précarité, c'est beaucoup plus complexe de travailler sur son regard. Enfin, de toute façon, son regard est déjà très dominé, et donc c'est plus compliqué. Mais voilà, juste un petit exemple, j'en parlais hier à l'heure, et je m'en suis rendu compte après. L'espace Quinière, c'est super, vraiment, et je pense qu'on attire un public qui est très très large. Mais les personnes, par exemple, issues de l'immigration, qui sont français pour la plupart et d'autres qui viennent d'arriver, etc. Et quand elles arrivent, c'est d'abord par la porte d'entrée de l'accompagnement. Voilà. Mes collègues sont très compétentes et vont travailler différemment, mais comment on part de la richesse de la personne avant de parler d'accompagnement? On parle de droit culturel, hein, donc on est vraiment là-dedans. Et ça, c'est tout un travail qui est très compliqué à faire. Et c'est comme on fait déjà, nous, dans notre milieu associatif. Parce que quand on regarde les conseils d'administration, tu l'as très bien dit, Laure, c'est principalement des personnes retraitées. Et on les en remercie, heureusement qu'elles sont là. La plupart du temps, sauf dans les associations plus à dimension plus culturelle. Mais sinon, ce ne sont que des blancs et des blanches. Je vais le faire très très court. Hein. Et voilà, alors qu'on a une population très mixée sur Blois, qui est hyper intéressante. Et vraiment, il y a eu cette population, elle est vraiment très chouette sur Blois. Pardon.
La réponse de Marc Gréco, et on fait une petite pause.
Alors, c'est toujours la difficulté, hein, quand on parlait il y a de nombreuses années de démocratisation de la culture. Donc on sait bien qu'il y a des publics qu'on n'arrive pas à capter sur telle ou telle structure culturelle, etc. Bon, et donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais on voit qu'il y a quand même des initiatives positives. Je pense à la Maison de Bégon, et c'est moi qui leur avais suggéré d'accueillir plus régulièrement des associations culturelles autour des musiques du monde, etc. Donc c'est tout un collectif qui organise d'ailleurs la fête annuelle des habitants à Croix-Chevalier. Et aujourd'hui, dans la programmation de la Maison de Bégon, ils intègrent des temps à ces associations qui, du coup, arrivent à capter des publics qui, traditionnellement, ne venaient pas à d'autres concerts à la Maison de Bégon. Et moi, j'y vais régulièrement et on voit qu'il y a une mixité qui se crée là depuis 3 ou 4 ans, qui est intéressante, mais ça demande du travail, de la mobilisation. Donc, c'est une réalité, ce que tu évoques, et donc ça prouve bien qu'on n'a pas, on se pose les mêmes questions, on n'a pas de réponse aujourd'hui précise, claire. Ça démontre qu'il y a un vrai sujet et qu'on a à court terme à partager entre nous pour essayer de réduire toutes ces fractures et mobiliser un maximum de public.
On fait une petite pause, l'intelligence collective fonctionne à plein régime, on boit un verre d'eau et on revient tout de suite.
Troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Power.
Ne le prenez pas personnellement, Marc Gricourt, c'était Fight the Power de Public Enemy. Je sais juste que je suis un peu taquin et que j'aime bien ce genre de choses. On est toujours donc en studio avec Marc Gricourt, maire sortant et candidat donc pour la ville de Blois pour ses municipales. Je suis accompagnée de Virginie Joly, représentante de l'ALEP, Laure Amance,
oui,
c'est bien ça, hein, j'ai bien prononcé, de la Maison des Provinces, et Cécile Singerie qui représente les Jardins de Cocagne Biosolidaire. Nous continuons donc cette conversation avec Marc Gricourt, qui reprend la parole. Virginie.
Oui. Marc, du coup, là, on voulait parler plutôt de politique enfance, petite enfance, jeunesse. Donc, il existe une offre importante sur la ville de Blois, et j'en suis la première. Voilà, j'ai utilisé toute cette offre avec mes enfants, jeunesse, etc. Mais ce qu'on peut constater, c'est... on reparle de cloisonnement, hein, y a tout un tas de services... et un tas d'associations comme les nôtres qui travaillons aussi sur cette partie-là. Mais on aimerait avoir plus de liens avec la politique petite enfance, enfance, jeunesse. Et hier, j'en parlais donc avec Laure, qui a une super proposition, Marc, qu'on souhaiterait te faire ici à l'antenne.
Surpreneur.
Il vous reste de la place sur la liste, Marc, ou non?
Ah non.
Non, mais c'est pas la peine, je m'en vais.
C'est vrai.
Oui, en fait, on échangeait et on se rendait compte que nous, maison de quartier, la portion des cours pour nos enfants, elle est vraiment congrue, en fait, pour les enfants. On propose énormément d'activités, mais ça va être beaucoup, beaucoup d'activités adultes. Très peu d'activités enfants. On se rend compte que si on ne touche pas les familles, on ne fait pas arriver de nouvelles personnes et on ne fidélise pas. Et nous n'avons pas de nouveaux adhérents, c'est-à-dire que... les gens qui sont là depuis très longtemps vont renouveler leurs abonnements et vont rester adhérents, mais on a très peu de nouvelles personnes qui viennent, et souvent les offres loisirs enfants, c'est le point de départ, en fait. C'est ce qui fait venir les gens et qui les incite à rester, peut-être à prendre pour eux-mêmes des activités supplémentaires. Et dans cette idée-là, on se posait la question si auprès la ville pouvait proposer, on sait qu'il y a un pass culture Blois, est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité d'offrir des bouquets d'activités qui permettraient aux enfants de connaître, de participer à des activités socioculturelles au sein des différentes maisons de quartier, et ainsi de faire le tour des différentes maisons de quartier. C'est-à-dire que sur une année, vous avez poterie... à la Maison des Provinces, puis danse à la Quinière, puis à la Maison de Bégon de la musique, et pourquoi pas une quatrième activité, atelier alimentaire à Cocagne, exactement.
Un pack associatif.
Un pack associatif qui permettrait à un plus jeune public de découvrir les maisons de quartier, donc d'emmener leurs parents avec eux, leurs grands-parents, et ainsi refaire vivre toutes nos associations et les fédérer et les unir et créer du lien. Voilà.
Et juste ce qu'elle constatait, Laure, c'est vrai que sur Blois, il y a une offre sportive pour les jeunes gens très importante, mais c'est la dimension artistique, elle est quand même très plus limitée, quoi. Et
c'est ça.
Nous avons les moyens, du coup, de proposer cette offre de créativité artistique. Voilà, c'était aussi dans ce sens-là.
Et puis pour les jardins de Cocagne, la dimension alimentaire, santé alimentaire, sécurité alimentaire, et voilà, créer.
C'est une clé d'entrée qui fonctionne très bien, c'est justement la sensibilisation des enfants.
Oui.
En effet, alors nous, à notre échelle, on fait des chasses au trésor, des choses comme ça, ou des ateliers à la marge, mais en effet, il y a du partenariat à trouver et peut-être des choses à développer en entrant par l'enfant, c'est sûr.
Alors le rôle des maisons de quartier a beaucoup évolué, hein, ces 30 dernières années. Traditionnellement, beaucoup de maisons de quartier, c'était le cas à Blois-Vienne, c'était le cas à la LCV, accueillaient des centres de loisirs. On sait combien c'est lourd à porter sur un plan ressources humaines, sur un plan financier, et ça occasionnait d'ailleurs des déficits, des déficits pour les structures, et donc l'évolution s'est faite d'abandonner au fil du temps ces centres de loisirs, excepté aujourd'hui la LCV en Vienne qui continue à avoir cette offre.
Frédéric Pinault, qui était présent avec un autre des candidats, effectivement mentionnait le fait que le centre de loisirs de la LCV était plus cher de fait que...
Absolument.
les centres de loisirs
absolument.
Municipaux.
Donc ça, c'est le constat. Sur l'offre de bouquets d'achat pour enfants, je trouve que ça pourrait être une piste. C'est une piste qui mérite réflexion. Il faut établir quelles pourraient être les modalités de mise en place. Est-ce que c'est un pass que viennent rechercher les familles au sein des maisons de quartier elles-mêmes ou chez nous à la vie associative en partenariat avec les maisons de quartier? Est-ce que c'est une prise en charge par la collectivité jusqu'à un certain âge de l'adhésion, par exemple, pour stimuler aussi l'envie d'engagement des enfants par l'intermédiaire de leur famille, de leurs parents. Donc ça, c'est je trouve que ça fait partie aussi des sujets qu'on devrait à court terme réfléchir ensemble, en tout cas au moins avec les maisons de quartier. Après, Virginie, quand tu dis la dimension artistique, elle est limitée. Alors elle est limitée peut-être sur les temps hors scolaire, parce que sur les temps scolaires, on a aussi cette chance et cette réalité d'une ville très engagée aux côtés de l'éducation nationale sur le temps scolaire. Alors, il y a la richesse de notre patrimoine avec tout ce qui est porté au château et notamment avec notre responsable du label Ville d'Art et d'Histoire. Mais il y a aussi les partenariats avec l'École d'Art et la Fondation du Doute, les partenariats avec le Conservatoire de Musique, les partenariats avec aujourd'hui la Maison de la BD, le partenariat riche avec le musée d'histoire naturelle. Bref, on a cette réalité. Mais en dehors du temps scolaire, il faut peut-être aussi favoriser un peu plus sur les temps de loisirs et les temps de vacances, pour les structures qui restent ouvertes pendant les temps de vacances, des choses. Donc moi, je note offrir un bouquet, un pass loisir découverte pour les enfants jusqu'à une tranche d'âge. Alors nos centres de loisirs fonctionnent bien, nos centres d'accueil jeunesse, fonctionnent bien. Je rappelle que nous avions remis en place un accueil des 11-15 ans qui avait été supprimé par la municipalité de droite avant nous. C'est tout ce que l'on peut porter, nous, auprès des enfants et de la jeunesse en direct. Mais là aussi, le monde associatif qui porte beaucoup, je pense qu'on peut s'appuyer peut-être plus sur vous demain qu'aujourd'hui.
Oui, du coup, en début de conversation, on avait abordé le fait que nos associations se trouvent en concurrence avec le monde privé. La réalité du business que représente l'offre que l'on a et qui nous met tous en concurrence, nous met tous en difficulté. Comment peut-on solutionner cela ou clarifier? En fait, ce sont des pistes qui sont difficiles parce que, c'est vraiment les questions de politique tarifaire et puis vraiment de notre situation d'entreprise, en fait.
Oui, c'est ça. Je me permets de compléter. On voit bien l'évolution du monde associatif, qui était prestataire de l'État, des collectivités. Aujourd'hui, le monde associatif est appelé entreprise, monde de l'entreprise.
Dégager des bénéfices pour rester.
Des bénéfices, non, mais en tout cas, avoir...
être à l'équilibre.
C'est ça.
Pension économique qui prévaut maintenant aussi. Quoi.
Complètement.
En tout cas, pour survivre.
Exactement, et on voit bien que cet univers associatif se tourne donc vers le monde de l'entreprise, et on le voit bien à travers toutes ces structures, même parfois des coopératives, des SIC, et ça c'est plutôt des outils intéressants, mais aussi de tout le retournement vers le monde de l'entreprise et cette individualisation du monde associatif aussi. Donc je suppose qu'une mairie, elle n'a pas toutes les réponses face à ça, face à la concurrence, mais juste pour donner un exemple, nous, nos maisons de quartier, par exemple, proposent un tas d'activités sportives. Aujourd'hui, on a tout un tas d'activités sportives qui sont créées par des boîtes privées qui valent le coup, c'est pas la question, mais cette interrogation-là, comment on peut l'avoir ensemble? Est-ce que ça peut être aussi des rencontres avec les entreprises elles-mêmes qui créent ces boîtes,
Alors, concurrence en effet de certains secteurs de la vie associative avec le secteur privé, c'est une réalité. En tout cas, là aussi, c'est une question de choix politique. Je pense à des politiques publiques que l'on porte directement, par exemple la restauration scolaire. Et ben, cette campagne a permis de mettre en exergue que le candidat de la droite préférerait l'engagement d'une société privée, comme c'était le cas précédemment, alors que la démonstration était faite qu'on était plus efficace sur l'approvisionnement de proximité, sur le bio et donc sur la qualité des repas et le soutien à ces secteurs locaux de l'agriculture et du maraîchage. Bon, ben voilà, c'est un choix politique. En tout cas, nous, la démonstration a été faite de notre priorité au service public et au monde associatif, le monde associatif qui est dans une mission de service public. Et donc, c'est notre engagement à maintenir nos efforts d'accompagnement sur le plan financier, de locaux, etc., tout ce qu'on a partagé. Donc ça, c'est déjà commencer par cela, ne pas abandonner notre engagement. Alors, il y a des exemples où on prend des initiatives. Je pense par exemple au sport santé. Ça revient encore au sujet de vieillir le mieux possible et rester en autonomie le plus longtemps possible et créer des rencontres, du lien. Donc on a initié ça, c'est la troisième année avec nos éducatrices, éducateurs sportifs de la ville. Mais bon, les effectifs sont ce qu'ils sont. On ne veut pas non plus abandonner leurs interventions auprès des enseignantes et enseignants du premier cycle, hein, du primaire. On veut élargir ce dispositif. Donc, d'ores et déjà, on réfléchit comment solliciter plus des associations pour cette pratique du sport santé, pratique douce, etc. C'est un exemple concret. Et demain, voilà, ce qu'on a évoqué ensemble pour les jeunes, ça peut s'adresser à tous les publics. Donc, c'est tout faire pour les orienter plus spontanément vers les activités, les actions qui sont portées par le monde associatif plutôt que par le public. Alors c'est la question des financements, bien sûr, des adhésions pour vous, du reste à charge, etc. Voilà, ça nous oblige à réfléchir, à inventer. Et encore une fois, ça reste quand même beaucoup dépendant. Alors l'État, évidemment, mais on a fait le diagnostic de ce qu'était la réalité d'un des engagements de l'État. Ça reste beaucoup dépendant de la volonté politique des collectivités et en l'occurrence ici à Blois de la municipalité. Donc voilà la réponse. Je ne sais pas si elle est claire, si elle est suffisamment précise. En tout cas, moi, je privilégierai toujours le monde associatif et à chaque fois qu'on peut s'appuyer sur le monde associatif, nous en avons fait la démonstration, eh bien, on le fait et ce sera une réalité amplifiée demain dans plusieurs domaines de l'action publique.
Donc, est-ce que ça voudrait dire que vous seriez dans une optique d'orienter un peu les maisons de quartier sur l'offre qu'elles pourraient faire?
Pourquoi pas?
Pour améliorer un besoin ou pour répondre à une nécessité des populations?
On a réfléchi et on va finaliser les choses sur ce qu'on appelle le droit aux vacances. Alors, ça a été une discussion dans l'équipe. Bon, droit aux vacances, c'est important. Ça rappelle ensuite des belles périodes de l'histoire de France du XXe siècle sous le Front populaire. Moi, j'avais plutôt parlé de droit aux loisirs. Parce qu'on peut aussi emmener des enfants, ce qui se passe hein, par notre service jeunesse, des jeunes, des ados, sur 4-5 jours à l'extérieur. C'est un moment important où ils partagent ensemble leur quotidien, etc. Mais ça peut être aussi, sur les temps notamment de vacances, plus développer des actions de loisirs. Alors, ça se fait, hein. On a par exemple, je parlais de la maison de la BD, BD Boom fait des actions spécifiques sur le temps des vacances scolaires qui ont un vrai succès. On peut peut-être accentuer tout ça. Alors évidemment, ça demandera un engagement possiblement plus important sur le plan financier de la municipalité. Mais encore une fois, j'ai tendance à dire, on n'a pas le choix. Demain, si l'on veut garder tout ce qui peut contribuer au vivre ensemble, à l'émancipation, au bien-être, qu'il soit physique ou psychique, il faudra y consacrer plus de moyens. Et auprès, ou en tout cas en partenariat avec le monde associatif, de toute manière, ça coûtera toujours moins cher, parce qu'il y a vos bénévoles, votre mutualisation, etc., que si on souhaitait, nous, le porter en direct. Ça nous demanderait de créer des postes de fonctionnaires, et dans le contexte d'aujourd'hui, ça paraît compliqué.
Ouais, une si dernière réflexion et puis je voudrais ensuite on va glisser vers la fin de l'émission et j'aurai quelques questions en vrac pour rattraper aussi d'autres questions qui ont été posées aux autres. Ouais, on s'approche de l'heure, monsieur Grécourt.
Alors juste, c'est une réflexion, ça ne demande pas nécessairement de réponse, mais juste un échange sur la culture de la coopération. Je pense que on le voit notamment dans le nord de la France, hein, la coopération a été très très importante parce qu'une situation économique très difficile liée au départ des entreprises, etc. Sur Blois, il me semble qu'il y a plus ou moins cette culture, mais qu'elle n'est pas suffisante et qu'elle doit se développer. Mais ça veut dire coopérer, ça veut dire aussi lâcher des choses. On a des modes de gestion, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont hyper cloisonnés. Et c'est d'accepter de lâcher des choses pour pouvoir mettre en place autre chose. Et tu l'as dit juste avant. Et voilà, c'est tout un travail. Chacun doit aussi travailler là-dessus, comme sur les droits culturels. Je ne sais pas comment on peut faire. Je ne sais pas comment, parce que ça prend du temps, Mais je pense que c'est la coopération, ça entraîne aussi des conflits, hein, on est bien d'accord, puisqu'on doit lâcher des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de lâcher dans nos modes d'organisation. Voilà, c'est la petite réflexion que j'avais.
Est-ce que vous voulez répondre est-ce que vous avez une réflexion aussi, un élément de conversation à apporter?
Non, il y a le constat que rappelle, et moi, mes parents étaient originaires du nord de la France, dans les cités minières. Il y avait au XXe siècle, dans toutes ces cités ouvrières, des initiatives qui ont été prises pour accompagner les jeunes, les moins jeunes, des clubs de pétanque, des clubs de tir à l'arc, des clubs de fléchettes, etc., etc. Donc il y avait une vraie vie sociale et solidaire. Mais c'était une autre époque, il n'y avait pas non plus la télévision, il n'y avait pas Internet. Donc il faut tout faire pour essayer d'obliger les gens à maintenir, voire redévelopper ce lien social. Moi, je suis plutôt confiant parce qu'au bout d'un moment, de vivre dans son coin, ça a des conséquences négatives sur son bien-être et sa santé personnelle, et que les gens vont prendre conscience que d'être avec du monde, de rencontrer du monde, de pratiquer des activités, au final, ça permet tout simplement d'être plus heureux, de mieux vivre, de mieux grandir et de mieux vieillir.
Je me permets de vous poser une dernière question qui a été posée aux autres candidats et qui me semble important sur la liberté de création et de programmation des structures culturelles. On a vu que la liberté de création, bien qu'elle soit ouvertement défendue par les pouvoirs publics, a subi aussi beaucoup de coups de boutoir avec des annulations de subventions à des festivals, à des artistes programmés dans le cadre de festivals, des subventions accordés qui ont été ensuite annulés. Quel est votre positionnement sur ce sujet? Et ça me permet de compléter, de parler du contrat d'engagement républicain qui suscite pas mal de défiance dans les associations qui doivent le signer. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus, puisque la question a été posée aux autres candidats.
Je crois qu'il est facilement vérifiable de démontrer que je ne me suis jamais initié dans les programmations des associations, des institutions, quand bien même nous sommes le premier financeur avec l'État. Je pense par exemple à la scène nationale, et le directeur me l'évoquait encore récemment, parce que les directrices et directeurs viennent d'ailleurs et ils ont pu dans d'autres villes aussi subir des pressions, des tentations d'inciter à certaines programmations plutôt que d'autres. Moi, je suis pour la liberté totale, parce que la liberté totale de l'expression culturelle, c'est ce qui fait tout simplement une démocratie. Et donc, nous sommes encore dans une démocratie. On voit bien qu'il y a des pressions de certains groupes politiques qui pourraient remettre en question, ou qui le remettent d'ailleurs dans des villes où ils sont en responsabilité, cette liberté. Donc, liberté d'expression culturelle, liberté de programmation, c'est aussi toute la richesse que l'on a à Blois. Quand certaines et certains critiquent le fait qu'on construise un nouveau théâtre pour répondre aux attentes du ministère pour le label scène nationale, ben oui, mais il y a une qualité de programmation, il y a un public évident, puisque c'est toujours à guichet fermé. Quand certains remettent en cause notre engagement au fil des années sur la maison de Bégon, parce qu'il y a une programmation autour des cultures du monde et que ça peut déranger certains, nous assumons, parce que c'est tout simplement la richesse de la liberté de l'expression culturelle universelle. Quand on a créé la bande dessinée qui est un moyen d'expression culturelle d'une grande liberté, qui aborde des sujets de société, la défense des droits, etc., ça dérange certaines et certains. et ben nous, nous assumons d'avoir porté cela, comme nous assumons d'avoir créé la Fondation du Doute, qui est sur un champ spécifique de l'art contemporain, mais qui répond aussi à une liberté d'expression culturelle, qui a son public. Bref, tout ce qui peut contribuer à cela. Alors c'est vrai qu'il faut que ce soit dans le respect des règles de la République, notamment de la laïcité, et ce sont des chartes hein, que l'on peut en effet imaginer à faire signer entre la ville et les associations pour respecter aussi cette liberté, cette autonomie du monde associatif. Alors on peut avoir des exigences, des attentes, je ne sais pas, parce que nous sommes aussi le financeur, de dire à une association, ce serait bien si vous parveniez à capter un peu plus de public jeune, etc. Et du coup, ça peut se faire à travers un choix de programmation qui va répondre aux attentes des jeunesses. Donc ça, on est dans notre rôle.
À partir du moment où ce contrat-là serait rempli.
Ben oui, après, sincèrement, je crois que les associations blésoises, encore une fois les institutions, peuvent confirmer que sur cette liberté qui leur est donnée de programmation, je suis tout à fait en phase avec les propos que je vous tiens.
Très bien, merci pour ces éclaircissements. C'est la fin de l'émission, est-ce que vous avez une dernière réflexion? Et sinon, on laissera un dernier mot à M. Gricourt.
Juste, oui, la réflexion par rapport à vos propos. Nous sommes en démocratie, comme tu le dis, Marc, et moi j'ai envie de dire que voilà, face à la montée du populisme un peu partout, effectivement, la culture, l'alimentation, enfin tout ce que le monde associatif fait est fondamental pour faire du lien, et le lien permet de la rencontre avec l'autre et donc d'éviter le rejet de l'autre. Et ça, c'est fondamental, et je pense que voilà, c'est important
de le mentionner.
De le mentionner, merci.
Monsieur le maire, vous avez le droit à une dernière
monsieur
réflexion.
Candidat.
Monsieur le candidat, voilà, monsieur le maire sortant.
Bon, ben, je crois qu'il y a le sujet de l'accompagnement, du soutien, du partenariat au monde associatif. C'est une réalité à Blois. Ça ne nie pas les difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui de nombreuses associations, et nous l'avons partagé, notamment de par le désengagement de l'État ou d'autres collectivités territoriales, comme par exemple le Conseil départemental. Alors nous sommes dans une période électorale. Évidemment, toutes les candidates et tous les candidats vont avoir un discours très engagé en faveur du monde associatif. Voilà, il y a la période électorale qui est favorable aux paroles, et puis il y a dans la gestion, quand on est en responsabilité, on le voit à l'occasion d'un mandat, ce que peuvent être les positions de certains groupes politiques en défaveur de certains champs de l'action associative. Je crois que tout ce que j'ai évoqué, accompagnement, soutien, partenariat, c'est pour moi en tout cas par la preuve, et ce sera confirmé dans les années qui viennent.
Merci Marc Gricourt d'être venu, de vous être prêté à ce jeu du temps long. On a souhaité, nous ici à Studio Z, privilégier ce format long qui permet d'aller au fond des choses et de sortir voilà, des phrases des fois un peu choc et des coups portés aux uns et aux autres. On s'en est tenu à bonne distance et j'en suis ravi. Merci Virginie
pour cette belle initiative.
Merci Virginie Joly de l'ALEP, merci Laure Amance de la Maison des Provinces et merci Cécile Saint-Gery de Jardin de Cocagne Biosolidaire d'avoir participé. C'était riche et passionnant. Les élections municipales, on le rappelle, ce sera le 15 et le 22 mars. Les autres émissions avec les autres candidats sont à retrouver sur notre site internet à la page de La Lorgnette. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée sur les ondes de Studio Z.
Merci.
Merci.
Merci. Merci.